Et je vous propose tout de suite de faire une courte lecture et d'ouvrir votre Bible dans le psaume 11. C'est un passage qui nous interpelle. Et au verset 3, il nous est dit, psaume 11, verset 3, quand les fondements seront versés, le juste, que fera-t-il ? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Et nous voyons aujourd'hui de plus en plus, et encore ces dernières nouvelles, nous l'avons encore entendu, que les fondements spirituels, les fondements moraux, les fondements familiaux, les fondements sociaux, éducatifs, aujourd'hui, sont en dessus-dessous. Aujourd'hui, le mal, vous le savez, établit bien. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Nos dirigeants inversent les valeurs, détruisent les bases d'une bonne société et en dénaturant l'institution du mariage. Télévision, films, publicités sont pleins de tueries, sont pleins de violences, d'immoralité. Les enfants peuvent vivre aujourd'hui dans un monde peut-être confortablement, dans une maison confortablement. Ils peuvent avoir de belles tennis, de belles marques, vêtus pour certains avec des articles de luxe. Merci, c'est vrai, c'est bien quand Dieu nous permet d'être dans un pays où on ne souffre pas de faim. Merci. Mais pour ces enfants, pour la plupart d'enfants aussi, ils sont éduqués par la rue et non éduqués par leurs parents. Ils sont éduqués par Internet et non par leurs parents. Alors, la réponse de David à cette question, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Eh bien, sa question se trouve un petit peu plus loin. Et David va dire, au verset 1, je cherche un refuge en l'Éternel. Quand tous ces fondements que nous voyons, qui sont complètement renversés, eh bien le juste, que fait-il ? Il cherche un refuge en l'Éternel. C'est pourquoi, en ces temps d'influence négative qui nous adresse, qui nous agresse, nous, en tant qu'adultes, parents, grands-parents, et aussi qui bombardent littéralement de tous côtés nos enfants. Nos enfants sont bombardés jour après jour par ces influences négatives. Il est important pour nous de tourner nos regards vers Dieu et de nous laisser instruire par la parole de Dieu qui ne change pas, qui est toujours pareil. Il est important pour nous de tourner nos regards vers Dieu pour trouver les conseils que Dieu veut nous donner concernant notre attitude que nous devons avoir en tant que parents, futurs parents, parents et grands-parents qui, pour la plupart, nous le sommes déjà. Ce soir, donc, je vous propose de regarder à une famille qui se trouve dans la Bible, qui a eu également une forte influence sur leur enfant qui deviendra par la suite un disciple de Jésus-Christ, le bras droit de l'apôtre Paul. Cette famille que nous allons découvrir dans quelques instants va certainement, et c'est le but, encourager certains ou certaines d'entre vous, car la mère de ce futur disciple a fait dans sa jeunesse de mauvais choix. Elle a fait des erreurs de parcours. Pourtant, l'Éternel était le Dieu de sa jeunesse. L'Éternel était le Dieu de sa jeunesse, mais elle s'est éloignée de Dieu pour un certain temps, pour revenir vers lui après son mariage, avec l'aide de sa propre mère, de sa maman, et aussi d'hommes de Dieu, entre autres l'apôtre Paul. Elle a vu la miséricorde, elle a vu la bienveillance divine. Nous l'avons chanté, ta bienveillance, ô Éternel, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux plus tout ce que j'ai vu. Elle a vu la restauration, et je le dirai sûrement à la fin, je le dis et je le redis, dans la grâce de Dieu, notre salut, il y a la notion, certes, de pardon, de guérison, mais dans le salut de Dieu, dans la grâce, il y a cette notion de restauration. Et ça, j'aime le dire. Il y a la restauration dans le salut que Dieu nous propose gratuitement en Jésus-Christ. Et donc, on va voir comment la grâce, la bienveillance, la restauration va agir tout particulièrement sur la maman qui avait fait un mauvais choix et aussi sur l'enfant qui est né. Alors, quel encouragement ? Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu restaure. Il pardonne nos égarements, il ne va pas bien sûr cautionner. Il aimerait tellement éviter que nous puissions, il aimerait tellement que nous évitions tous ces égarements. Mais néanmoins, Dieu pardonne, Dieu restaure. Et il pardonne ceux qui demandent pardon. Ceux qui demandent pardon. C'est d'ailleurs Samuel Fouquer que vous connaissez, qui, et ça m'a toujours, c'est sur son nouveau livre, et je vais le citer, La gravité du péché. Ah, on va dire, oui, on va pas parler, il y a péché, comme on dit quelquefois dans la religion, péché véniel, je crois, c'est ça, grand péché mortel, on est non, pas petit ou grand péché, non. Néanmoins, la gravité du péché, c'est lorsqu'il n'y a pas de repentance. C'est là que le péché est grave, lorsqu'il n'y a pas de repentance. Mais lorsqu'il y a repentance, comme David, tant que je me suis tu, mes os se consumaient jour et nuit, je gémissais. Mais j'ai dit, j'avouerai mes péchés. Et Dieu lui a pardonné. Il a retrouvé la joie de son salut. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1,9. Si nous confessons, il faut les confesser, on ne va pas les crier sur les toits, mais dire à Dieu d'un cœur sincère, j'ai péché. Et Dieu va pardonner. Dieu va pardonner. Alors je vous invite donc à ouvrir la Sainte Bible, à continuer, parce que vous l'avez déjà ouverte, et dans la seconde lettre de Paul à Timothée. Au chapitre 1er, passage que vous connaissez sûrement pour la plupart, et au chapitre 1er, donc, et au verset 3. 2 Timothée 1, oui, au verset 3. Je rends grâce, c'est donc Paul qui parle, et s'adresse donc à. C'est une lettre adressée à Timothée. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi hypocrite. Non, de la foi sincère. De la foi sincère qui est en toi, qui d'abord d'abord, habité dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi, demeure en toi. Ce n'est pas quelque chose de passage, mais qui habite en toi, qui demeure en toi. Alors, que savons-nous de ces deux femmes, Loïs et Eunice, dont l'apôtre Paul vient de parler dans ce passage? Tout d'abord, qu'elles étaient respectivement grand-mère et mère de Timothée. Notons au passage que c'est la seule fois dans la Bible qu'il est fait mention, c'est la seule fois qu'il est fait mention du mot aïeul, qui signifie grand-mère en grec. Nous savons également qu'Eunice, la mère de Timothée, a grandi, nous le voyons, dans une famille juive, dans la ville de Lystre. On peut le voir, entre autres, en faisant des études dans les passages, dans certains chapitres des Actes des Apôtres. Nous ne savons pas pourquoi. Cette famille juive s'est exilée en Asie mineure, qui correspond maintenant à la Turquie actuelle. Cependant, le prénom n'est pas d'origine juive, Eunice. Eunice est un prénom grec. signifiant bonne victoire. Alors, on peut interpréter beaucoup de choses là-dessus. Personnellement, je vois une des explications possibles, je dis bien possibles, du mauvais choix de Nice dans sa jeunesse. Ses parents, juifs, en exil à Lystre, vivant au-delà de la frontière d'Israël, ont choisi pour leur fille un prénom païen. Peut-être pour cacher leur origine juive. Je ne veux pas dire par là qu'il faut que les parents aujourd'hui choisissent nécessairement un prénom se trouvant dans la Bible. J'aime bien. Mon petit-fils, il s'appelle Noé. C'est mon petit rayon de soleil. Quand je le vois, voilà, c'est mon petit rayon de soleil. Il s'appelle Noé. Paix, tranquillité. Mais, donc, c'est vrai que ce n'est pas une nécessité. Bon, c'est bien, il y a des très, très jolis prénoms dans la Bible. Mais vous savez, en tout cas, qu'à cette époque, le prénom d'une personne était très important à cette époque, avait beaucoup d'importance. Certes, le choix des prénoms païens par les Juifs vivant en exil n'était pas rare. C'était pas rare que les Juifs en Israël, en Turquie, choisissent un prénom païen, comme ce n'est pas rare aujourd'hui. Et c'est de plus en plus courant pour des parents chrétiens vivant dans un monde hostile à l'Évangile de voir des principes, de vivre plus selon les principes de la Bible, mais de vivre de plus en plus selon les principes du monde, les principes humains, et non plus aux normes supérieures de Dieu. De plus en plus, nos familles, dans nos assemblées, ne vivent plus selon les normes de Dieu. Non. 80% des membres de nos assemblées, à nous, maintenant, vont se décharger de l'éducation de leurs enfants à l'église. Voilà, maintenant, l'éducation des enfants, c'est à l'église de le faire. 80% de nos assemblées, des parents de nos assemblées. Ce n'est pas la norme de Dieu. Non, la norme de Dieu, c'est quoi? Tu inculqueras ces choses à tes enfants à la maison, et non pas à l'église. Et non pas à l'église. C'est à la maison. Ça, c'est la norme de Dieu, la norme supérieure. Mais c'est la norme de Dieu. Maintenant, non. L'éducation des enfants se fait à l'école, la mathématique, l'éducation de la Bible se fait à l'église. Ça, c'est les normes du monde. Non. Ce n'est pas la norme de Dieu. À la maison. Père, instruis ton enfant, Éphésiens. C'est au Père de le faire. Ça, c'est les normes de Dieu. Alors, attention, nous n'avons pas, nous, à avoir honte de l'Évangile. Nous devons être fiers de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. On peut donc supposer que Nice ait vécu une partie de son enfance et de sa jeunesse dans un foyer où, certes, les Saintes Écritures étaient lues, c'était des juifs, mais sûrement pas pleinement vécu à la maison. Peut-être ils allaient de temps en temps à la synagogue, ils avaient une bonne apparence, une piété apparente, mais les Écritures n'étaient pas pleinement vécues à la maison. D'où l'importance pour nos enfants, non pas de voir leurs parents vivre une religion, fût-elle une religion pentecôtiste, mais de voir papa, de voir maman vivre au quotidien l'Évangile, j'insiste toujours au même mot, à la maison. Quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, même quand tu partiras en voyage. Ça, c'est l'Évangile pleinement vécu au quotidien. Cela peut expliquer en partie que Nice soit engagé. Cela peut expliquer que Eunice se soit engagée dans une relation de mariage avec un grec, ce qui est une violation flagrante des principes bibliques. Cette violation n'était pas tellement le fait que Nice se soit mariée avec quelqu'un de l'extérieur du peuple juif. Car nous voyons dans l'Ancien Testament, entre autres, Ruth, c'est pas de la publicité hein, que je fais, mais on voit que Ruth s'est mariée avec elle, que Ruth était une étrangère par rapport aux Juifs, mais elle s'était détournée du pays de Moab pour se tourner vers Israël, vers le Dieu. Il y avait eu une conversion, mais cela n'était pas le cas pour le mari d'Eunice. Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles Eunice a épousé le jeune homme. Il se peut qu'Eunice, comme beaucoup de jeunes filles, rencontrât un jeune garçon qui était beau, qui était gentil, galant, lui promettant mont et merveille. Elle pensait sûrement qu'elle pourrait même le convertir après le mariage. Le fait est qu'elle a donné naissance à Timothée. Ce nom, sûrement choisi par Eunice, est aussi d'origine grecque et signifie « honorer Dieu ». Alors, si ce tableau que j'ai dressé de la situation d'Eunice est correct, à savoir qu'elle a épousé un non-croyant à un moment où elle a été négligente dans ses propres convictions, dans ses propres normes vis-à-vis de Dieu, elle a sûrement pris conscience, comme beaucoup le font, après le mariage, quand elle est devenue maman. Alors, qu'a-t-elle fait ? Premièrement, c'est un point important. Premièrement, elle se place sous l'autorité de son mari. Tout d'abord, nous voyons qu'elle s'est engagée à rester fidèle à son mari. Eunice aurait pu être secrète et rebelle en prenant son bébé pour l'emmener auprès d'un rabbin pour l'acte de la circoncision. Nous le voyons plus tard que Timothée n'a pas été circoncis. Donc, elle n'a rien fait en secret. Elle aurait pu également demander le divorce. Non, elle est restée engagée à ses vœux matrimoniaux et elle a tenu compte de la volonté de son mari incroyant. Mais néanmoins, elle a dû faire des compromis. Très probablement, Eunice a connu des moments difficiles dans l'éducation de Timothée. Maman voulait emmener Timothée à la synagogue. Papa voulait la dissuader et l'élever comme les Grecs, hein, comme un vrai homme. Il n'est pas rare, d'ailleurs, dans nos jours, que dans un foyer, l'un des parents soit chrétien. Malheureusement, moi qui circule sur le territoire français et même ailleurs, c'est un cas tellement maintenant de plus en plus nombreux. Situation où un papa ou une maman est chrétienne et où l'autre personne n'est pas chrétienne. Cependant, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire, c'est un point important, que votre famille peut être au bénéfice de votre foi. Votre foi en Jésus-Christ, authentique, et votre vie de piété personnel, authentiquement vécu, peuvent avoir un impact profond et étendu sur tous les membres de votre famille. N'oubliez jamais, mes bien-aimés. La Bible le déclare, vous le connaissez, ce passage, au premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7 et au verset 14. Car le mari non-croyant, 1 Corinthiens 7, 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Sanctifié. Sanctifié ne veut pas dire sauvé. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, si le mari non-croyant est sanctifié par la maman, par son épouse chrétienne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot sanctifié ne veut pas dire sauver, car le salut, c'est quelque chose de personnel. Cependant, la présence d'une personne chrétienne dans un couple met l'autre personne au bénéfice de sa foi, de sa vie de piété. Et les enfants, même s'ils ne vivent pas vraiment avec le Seigneur, sont au bénéfice, sont bénis, parce que la maman ou le papa sont chrétiens. Rappelez-vous de cela. J'en veux pour preuve, si vous me permettez. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Maman est décédée il y a quelques années, maintenant en arrière, en 82. Au dernier moment, maman s'est donnée au Seigneur. Papa aurait dû partir. Il était boulanger-pâtissier, je ne l'ai jamais connu parce qu'il travaillait toutes les nuits dans le fournil. À cette époque-là, c'était un métier où on travaillait la nuit. Et papa aurait dû partir depuis très longtemps. Et on priait pour papa. Papa est rentré il y a 2 ans en arrière dans une maison de retraite. Il avait quand même son autonomie. Et combien de fois avec mon épouse, on disait que c'est pour un fils, c'est pas évident de parler de la foi. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas été évident. Et là, à un moment donné, j'avais pu parler à papa. C'est pas prévu. J'ai pu lui parler de ce que Jésus avait fait à la croix. Et avec tout coulé, c'était inspiré par Dieu. Et c'était la première fois où j'allais dire à papa, « Papa, est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» J'allais lui demander. Et d'un seul coup, papa dit, « Laisse-moi tranquille avec ces choses-là. » Je suis descendu, j'ai appelé ma petite femme, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et quand j'ai lu ce passage-là, que notre famille est au bénéfice de notre piété, j'ai réalisé que par la grâce, bien sûr, que par ma vie de piété que j'ai avec Jésus, mon papa est au bénéfice de cela. Il est sanctifié. Il n'est pas sauvé, mais il est sanctifié, mis à part. Il y a une bénédiction. Il y a la main de Dieu sur papa. C'est fort quand on le réalise. Papa aurait dû partir bien avant à cause de l'usure de tout son organisme. Papa rentre à l'hôpital. Son état quand même s'aggrave quelque peu. Je dois aller voir papa. J'allais le voir tous les 2 jours à peu près. Je dois voir papa un jeudi. Et je dis à Arlette, le mercredi, on va voir Arlette, mon épouse, on va voir papa. Arlette me dit, mais c'est demain, dit, on y va. On va voir papa. Je commence à lui prendre la main, commence un petit peu à parler. Et je lui dis, tu veux qu'on prie ? Oui. Tu crois en Jésus ? Oui. Tu te rappelles ce que je t'ai dit sur Jésus, sur ce qu'il a fait à la croix ? Je prie pour lui. Et juste après, papa est rentré dans le coma. Voyez, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là, sanctifiée. Dieu prend soin de nous, bien-aimés. C'était le cas, tu l'as peut-être su, Christine Antoine a perdu sa maman, qui n'était pas chrétienne. Et pareil, au dernier moment, sa maman a dit oui au Seigneur, au bénéfice de la foi authentique de ses enfants. Donc nos enfants, même si nos parents ne sont pas encore chrétiens, par notre vie de piété, ils sont au bénéfice de notre piété personnelle. Au bénéfice. Ils ne sont pas sauvés, il ne faut pas se méprendre. Le salut, c'est quelque chose de personnel, mais la main de Dieu est sur votre enfant. La main de Dieu est sur votre époux, s'il n'est pas chrétien. La main de Dieu est sur votre épouse, si elle n'est pas chrétienne. C'est une promesse de la Bible. Croyez-le. La Bible affirme donc ces choses-là. il est sanctifié aussi par votre prière et l'obéissance à la parole de Dieu. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par les prières. 1 Timothée 4:5. C'est par vos prières, par la parole de Dieu, ils sont sanctifiés. En un mot, votre conjoint, votre conjointe est au bénéfice de votre vie de piété personnelle. Ah, j'entends peut-être certains dire, ah, vous voulez dire que mon mari, incroyant, est sanctifié ? Ah, vous ne connaissez pas le personnage. Je peux comprendre que vous puissiez réagir de cette sorte. Mais Dieu ne voit pas votre conjoint de la même manière que vous. Dieu agit dans le long terme. Dieu agit dans les longs termes. Il voit votre conjoint tel qu'il sera. Tel qu'il sera. Votre conjoint est sanctifié par votre présence. Il est mis à part par Dieu de sorte qu'un jour, il va accepter Jésus comme son sauveur personnel. Alors, laissez tomber tous vos efforts. Laissez tomber tous vos efforts. Et laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Il s'est trouvé. Il s'est trouvé. Les chemins des cœurs. Un des bienfaits de l'ascension de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses. On ne va pas faire une étude là-dessus. Quand je serai élevé, que fera-t-il ? J'attirerai tous les hommes. La puissance d'attraction de Jésus. La puissance d'attraction de Jésus, elle est plus forte que celle du diable. Car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Dieu attire. Dieu attire les âmes. Alors souvenez-vous que le témoignage le plus efficace consiste à laisser Christ faire de vous la meilleure épouse. Le meilleur témoignage efficace est de faire de vous le meilleur mari qu'il soit. C'est en montrant à votre conjoint l'amour fidèle, durable, inconditionnel, que vous le ferez entrer dans le royaume. Et même si c'est au dernier moment pour la maman de Christine, comme pour mon papa, même si c'est au dernier moment, il y a toujours un espace d'accueil dans les bras de Jésus. Toujours un espace d'accueil. Alors, dans le cas particulier de l'épouse chrétienne d'un mari non-croyant, la première épître de Pierre donne ce conseil que vous avez déjà lu au chapitre 3. Première épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 1er. C'est des conseils que la Bible nous donne concernant une épouse chrétienne qui est mariée avec un non-croyant. « Femme, soyez soumise à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné. » Sans parole, par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste, réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans un cœur, d'un esprit doux, paisible, qui est une grande valeur. Devant Dieu. Conseil de Dieu pour les épouses vis-à-vis de leur mari non chrétien. Et si les chrétiens, bah, soyez également douces. Néanmoins, quand même, qu'on ne se méprenne pas. La qualité qui me semble ressortir le plus souvent des exhortations concernant le témoignage vécu. Là, on en reparle, c'est la douceur. Parmi celles-ci, on trouve Philippiens 4:5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La douceur sous-entend le renoncement à tout esprit de supériorité. Hein? Les femmes, là, oh là, plus sainte que moi, c'est pas possible. Non, 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 non. Non, non, la douceur sous-entend qu'on fasse un petit peu, qu'on renonce à cet esprit de supériorité. Aussi, ça sous-entend beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Et aussi à rechercher à ressembler au maître, qui était doux et humble de cœur. Si vous traversez une période conjugale ou familiale difficile, permettez-moi de vous dire, faites confiance à Dieu. Ne perdez pas espoir. Continuez de prier dans le lieu secret, car Dieu voit. Et même si vous pleurez dans votre lieu secret, rappelez-vous que Dieu entend le bruit des larmes. Ça ne fait pas beaucoup de bruit quand même, des larmes qui coulent, mais Dieu entend. Il nous est dit dans Matthieu 6:6, et toi quand tu pries, ferme ta porte, dans ton lieu, ferme ta porte, et Dieu qui t'entend? Non. Qui nous voit? Dieu voit. C'est ça. Quand on est dans le lieu secret, il n'y a plus d'hypocrisie, n'est-ce pas? On est tous seuls avec Dieu. Mais Dieu voit, il sonde. Alors, surtout, mes bien-aimés, ne tournons pas nos regards aux promesses de Dieu. Elles sont là. Oui, amen, en Jésus-Christ. J'essaye d'aller plus vite, parce que sinon, à un moment donné, si je continue, il n'y aurait plus personne ici. Hein? Je vais parler au mur. Hein? Voilà. Ainsi, nous avons vu dans ce premier point que Nice ne s'est pas rebellée contre son époux. Alors, nous voyons qu'elle s'engage, mon deuxième point, qu'elle s'engage à enseigner son fils Timothée, par l'exemple. Nous ne savons pas comment Loïs et Eunice sont venus à connaître le merveilleux message de l'Évangile, mais elle savait que le plus beau cadeau qu'elle pouvait faire à Timothée était de l'instruire, non seulement par la lecture des Saintes Écritures, qui étaient lues à cette époque, c'était l'Ancien Testament, mais elle savait que le plus beau cadeau qu'elle pouvait faire, c'était aussi le vivre par l'exemple. Vous connaissez sûrement l'histoire qu'on vous a peut-être racontée, votre propre pasteur vous l'a peut-être racontée, ces pasteurs qui sont là, qui discutent sur les meilleures traductions de la Bible. Alors le premier pasteur, ils sont ensemble, dit « Oh, moi j'aime cette version-là parce que là, c'est traduit là, du grec, de l'hébreu, et ils ont gardé l'essence, le sens original de tel ou tel terme. Oh, c'est ce que j'aime. » L'autre personne dit « Ah, j'aime plutôt l'autre version parce qu'ils l'ont mis un petit peu en français plus facile, c'est plus facile à comprendre. » L'autre pasteur dit, la traduction que je préfère de la Bible, c'est la traduction de ma mère. Oh, les autres pasteurs disent, frère, votre maman a traduit la Bible. Nous sommes vraiment confus, on ne le savait pas que votre maman avait traduit la Bible. Oui, elle a traduit. Elle a traduit par ses actions à la maison. C'est la meilleure traduction que j'ai lue, la vie vécue à travers ma mère. C'était une Bible ouverte à la maison. La première Bible que vos enfants liront, ou ils ont peut-être déjà lu, c'est votre vie vécue à la maison, une lettre ouverte à la maison. Cette maman donc imitait donc Jésus qui, avant d'enseigner, agissait, comme nous pouvons le lire dans Actes 1er, chapitre 1er, avant d'enseigner Jésus, que faisait-il? Il agissait. Avant d'enseigner les autres, mes bien-aimés, montrons par nos actes la réalité de notre foi, et ce, particulièrement sous le toit familial. Permettez-moi d'insister là-dessus. L'enfant est tout d'abord instruit par ce qu'il voit. L'enfant est tout d'abord instruit par ce qu'il entend. Ainsi, les parents doivent être des modèles de vie en action, en parole, non pas uniquement à l'église. C'est tellement facile, n'est-ce pas? Tellement facile. Mais surtout à la maison, à travers chaque facette de la vie. Parce que là, on ne triche pas à la maison. Et les enfants le voient. Comme il est tragique, malheureusement, de voir des enfants élevés dans une famille chrétienne qui par la suite vont suivre, qui vont vivre loin de Dieu et rendre leurs parents responsables parce que dans la vie de tous les jours, ces parents ont donné un mauvais exemple, une mauvaise représentation de Jésus. Proverbe 22,6, il nous est dit, instruis l'enfant. Instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il s'en éloignera point. Ça a été mal traduit, on peut comprendre. Ce n'était pas facile à traduire. Mais à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle instruit. Ça a été traduit en français par instruit. C'est ce qu'on appelle un impax. C'est-à-dire que c'est dans l'hébreu, à cet endroit-là, on le trouve dans l'original hébreu, on le trouve qu'ici. C'est ce qu'on appelle un impax. Il n'y a pas ailleurs. Bon, second, pour la plupart des traducteurs l'ont traduit par instruit, mais là, c'est autre chose. C'est très difficile à le traduire par un seul mot, mais on va le dire donne goût. C'est le fait de il y a la notion aussi de d'allaiter. Quand les mamans, à certaines époques, mettaient un peu de petits produits sucrés pour que l'enfant puisse téter. Donne goût. Donne goût à l'Évangile. Qu'il ait une bonne représentation, une bonne image de ce qu'est l'Évangile, non pas la religion, pas une forme de religion, une pratique religieuse, mais donne goût donne goût à ton enfant. Présente-lui l'Évangile tel qu'il est, authentiquement. Et non pas quand il sera vieux, quand il commencera à avoir du poil au menton. Mais ça a été mal traduit. Bon, voilà, c'est la vraie traduction, c'est ça. Quand il commencera à avoir du poil au menton, eh bien, elle ne s'en éloignera pas. C'est une promesse de la Bible. Si tu lui as donné goût, tu lui as montré ce qu'est l'Évangile, la puissance de l'Évangile, la grâce de Dieu, présenter Jésus-Christ comme celui qui aime, qui nous aime, eh bien, si tu lui présentes toutes ces choses-là, si tu l'instruis dans la maison, eh bien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Même devenu plus grand, il s'en éloignera pas. Alors voilà, donc attention comment nous instruisons nos enfants. Et malheureusement, beaucoup de parents ont donné une mauvaise représentation de Jésus, de la Bible. Nos actes en disent plus que les mots. Trop d'enfants, malheureusement, s'écrient en ces termes, « Papa, papa, parle plus fort. Parle plus fort car tes actions m'empêchent d'entendre ce que tu me dis. » Paul pouvait dire dans notre lecture d'introduction de Timothée 1,5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère. » Remarquez qu'il est dit que la foi, comme je disais, je l'ai un petit peu fait allusion tout à l'heure dans mon prélude, habita dans Loïs et Eunice. Elle n'était pas en elle que le dimanche, occasionnellement. Non, c'est une foi qui habitait chez maman et chez grand-mère. La foi de la grand-mère et de la mère de Timothée était sans hypocrisie. Elles étaient les mêmes. À la maison, elles étaient les mêmes. À l'église, elles étaient les mêmes. Non, les voitures n'existaient pas encore. Mais en tout cas, dans la rue, sans hypocrisie, elles vivaient leur foi jour après jour avec une foi sincère, sans hypocrisie. Troisième chose que j'aimerais faire ressortir de la vie de Nice, c'est qu'elle n'a pas attendu que l'enfant grandisse pour lui inculquer les vérités bibliques, divines. Eunice, nous l'avons vu, enseigne son enfant dès sa plus tendre enfance. On va plutôt le découvrir maintenant, excusez-moi, dans 2 Timothée 3,15, il nous est dit, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Dès ton enfance. Littéralement, dans le grec, depuis ta plus tendre enfance, car le terme employé dans le grec est, à cet endroit-là, excusez-moi si quelquefois je fais allusion à ces mots grecs, brephos, signifiant un enfant en bas âge, un nourrisson, même fœtus. Même fœtus. Ma fille Virginie, quand le petit Noé était encore dans le ventre, elle lui chantait, et elle ne mettait pas au parleur, hein, auprès du ventre, tu vas entendre papy chanter. Hein? Non, non. Mais elle chantait toujours un petit chant, entre autres, « Petit enfant, quand tu pries ». Et encore maintenant, Noé a 20 mois maintenant, et quand on lui chante « Petit enfant, quand tu pries », il se calme. Alors, la semaine dernière, à un moment donné, mon épouse est partie avec Virginie faire des courses, et papy est resté, voilà, surveiller le petit Noé. Ça tombait bien, c'était sa sieste. Mais la sieste se termine à un moment donné. Et maman et grand-maman n'étaient pas encore revenus. Et papy était tout seul. Me v'là bien. Alors, je monte, je commence à mettre les petites chaussettes, tac, tac, tac. Et comme c'était papy, il commence à faire le fou. Hein. Et comme après, il faisait le fou, il voyait que je commençais à rigoler. Lui, ça y est, il commençait à courir et tout. Et il dit, allez, on va se calmer. Et je lui chante, petit enfant, quand tu pries. Ah, oups, et c'est tout de suite calmé. C'est un chant que Noé avait entendu lorsqu'il était dans le ventre de sa maman. On raconte l'histoire d'une dame qui demande à son pasteur, « Pasteur, à quel âge dois-je commencer à enseigner mon fils ?» Alors le pasteur lui répond, « Sœur, quel âge a votre fils ? Il a 3 mois. Vous avez déjà perdu 90 jours. Si nous ne semons pas la bonne parole de Dieu dès son plus jeune âge, l'adversaire, le diable, viendra semer son ivraie dans le cœur des enfants. Et lui, il n'attend pas les années pour le faire. Tandis que nous, enfants de lumière, trop souvent, nous attendons de le faire. Ne lui laissons pas l'avantage. Ne lui laissons pas l'avantage. Semons le plus vite possible et le plus souvent possible, avec grâce, bien sûr. Et c'est à nous de semer dans le cœur de l'enfant et de veiller à ne pas semer l'ivraie dans son cœur. On en reparlera peut-être demain matin sur ce point-là. C'est pourquoi la Bible conseille d'instruire l'enfant dès sa plus tendre enfance avec grâce, d'une manière adaptée, mais avec grâce, et toujours adaptée selon l'âge de l'enfant, toujours avec sagesse. Lisez la Bible avec votre enfant, lisez-la. Faites toujours avec grâce, on n'est pas dans le légalisme, un culte de famille. Il y a des excellents, il me semble, des outils qui permettent de le faire. Mais ne voyez pas là-dessus, bien sûr, la publicité. Mais voilà, il existe des choses, profitez-en. Donc, essayez, si ce n'est pas encore trop tard, d'instituer ces moments où vous pouvez chanter en famille, prier en famille. Quatrième point, ça se termine. Eunice fait appel à sa mère pour l'aider. Certes, pour Eunice, seule, pour élever son enfant, Timothée, c'était utile pour elle de compter de temps en temps sur sa maman, la grand-mère de Timothée. Heureusement, la grand-mère de Timothée était à proximité et savait comment aider sa fille dans sa tâche difficile d'élever seule son enfant, sans pour autant empiéter dans sa vie privée, sans commander, sans être dominante, sans être envahissante. La foi sincère qui habitait Loïs, la grand-mère de Timothée, a joué un rôle important dans la vie du petit garçon. Dès son enfance, Timothée a reçu de la part de sa mère et de sa grand-mère, la transmission des Saintes Écritures. Au-delà de ces considérations, le rôle des grands-parents est important. Grands-parents qui êtes là, à cause de la richesse de notre vécu. grands-parents, ne vous croyez pas inutiles. Vous êtes utiles. Votre famille, votre enfant, vos petits-enfants ont besoin de vous. Cependant, ce n'est pas aux grands-parents d'éduquer leurs petits-enfants. C'est aux parents de le faire, tout comme ce n'est pas à l'aîné de la famille de s'occuper d'éduquer le dernier-né. Néanmoins, si l'éducation chrétienne des enfants doit être effectuée en priorité par papa, par maman, le rôle des grands-parents n'en demeure pas moins important. Mais attention, mes bien-aimés, attention, ce serait une erreur pour les parents de faire de papy et de mamie des gardes d'enfants à plein temps. Ce serait une erreur, une grave erreur. Nous sommes heureux de recevoir nos petits-enfants. Comme cet après-midi, Virginie voulait manger, Virginie c'est ma fille, voulait manger avec son mari. Ce midi, elle a téléphoné, « Maman, est-ce que tu peux veiller tout l'après-midi sur Timothée, sur Noé ?» Bien sûr. Mais c'est quand même pas tous les jours. Nous ne sommes pas des gardes, le garde de Noé en permanence. Une fois de temps en temps. C'est une solution de facilité qui consisterait aux parents un abandon de poste. C'est aux parents et à eux seuls qu'incombe la mission d'élever, d'instruire leur enfant, pas à quelqu'un d'autre et surtout pas à la rue, surtout pas à Internet et autres moyens de vidéos ou de médias. C'est un principe divin. C'est un principe divin. C'est Dieu qui le dit. Et vous, chers parents d'aujourd'hui, sachez, et je vous le souhaite, si le Seigneur n'est pas revenu, que demain vous serez papy, que vous serez mamie, et votre rôle ne sera pas terminé. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, le psaume 78, verset 4. Même dans notre blanche vieillesse, cheveux grisonnants, avec l'aide de Dieu, nous sommes invités à parler à la jeune génération. Psaume 71, 18. Eunice assiste avec son fils aux réunions de l'assemblée locale. Le cinquième point que j'aimerais relever concernant l'éducation et l'action d'Eunice dans l'éducation de son fils a été d'aller avec lui aux réunions de l'église locale. Et c'est sûrement là, lors de sa première visite missionnaire de Paul à Lystre, que Timothée, à l'âge de 15 ans, se convertit en lisant les Écritures. Ayant été instruit dans les Saintes Écritures à la maison, son cœur était prêt à recevoir le salut de Jésus à l'écoute de la prédication de Paul. Quel gâchis si Eunice, ce jour-là, avait dit « Allez, Timothée, reste à la maison. Je vais aller seul écouter l'apôtre Paul. » Quel gâchis, n'est-ce pas ? Quelle joie pour l'apôtre Paul, environ 4 à 5 années plus tard, lors de sa seconde visite à Lystre, dans cette ville, acte 16, 1 à 3, d'apprendre par les frères, même de Lystre et d'Icône, que Timothée faisait d'excellents progrès dans la foi chrétienne. Faisons aussi de nos églises des lieux où l'enfant se sent accueilli, non rejeté, se sent accueilli, comme le faisait Jésus, les bras ouverts, laissez venir à moi les petits-enfants. Et même Jésus a pris le temps de prier pour chaque enfant. Il a pris le temps. Alors, à combien plus forte raison nous pouvons aussi trouver du temps pour prier pour nos enfants. Et si vous me dites, moi, je n'ai plus le temps pour prier pour mon enfant, permettez-moi de vous dire, frère ou sœur, revoyez vos priorités. Être parent est la tâche à la fois la plus difficile. La plus difficile. Mais aussi la plus belle au monde. Beaucoup de personnalités connues ont rendu témoignage à leur mère et à l'influence de celle-ci sur leur vie. Par exemple, George Washington a dit « L'enseignement le plus grand que j'ai eu fut ma mère, Washington. » Winston Churchill déclara « Si nous voulons changer notre nation, commençons par recruter des mères. » Et enfin, le président des États-Unis célèbre, Abraham Lincoln, « Aucun homme n'est pauvre quand il a une mère pieuse. Aucun homme n'est pauvre quand il a une mère pieuse. » Timothée pouvait être reconnaissant d'avoir eu une maman et une grand-mère pieuse. Quelle influence bénie, n'est-ce pas? Donc, la lecture de la Bible, l'étude que nous avons eue ce soir, nous laisse en Louis et Eunice, nous rappelle que nous ne devrions pas sous-estimer l'influence d'une maman, sous-estimer l'influence d'une grand-mère. Dieu en a-t-il trouvé parmi vous? Je pense, j'en suis persuadé. Va-t-il en trouver d'autres encore aujourd'hui? C'est à vous d'y répondre, bien sûr. Peut-être qu'à l'écoute de cette méditation, maman ou grand-maman, des larmes au fond de ton cœur, invisibles peut-être à nous, coulent sur tes joues. Tes regrets envahissent ton âme, de la révolte aussi peut-être pour certains, à l'écoute de ces paroles, qui peut-être pour certains ne sont plus d'actualité. Mais si tu pleures, chasse toute culpabilité, car notre Dieu, comme je le disais tout à l'heure, est un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce, qui résiste aux orgueilleux, et qui fait grâce à ceux qui demandent pardon, qui entend le cri de ses enfants. Tout n'est pas perdu. Prie pour eux. Prie pour eux sans relâche. Aujourd'hui, peut-être, tu as l'impression d'avoir échoué. On peut comprendre, dans ta mission de papa, dans ta mission de maman, tu penses avoir échoué même maintenant dans ta mission de grand-père, de grand-mère. Ne perds pas courage. Dieu est un Dieu qui restaure. Confie-toi en Dieu. Confie-toi dans cette possibilité qu'il y a un processus de restauration qui peut commencer. Si tu te réfugies dans les bras de Dieu, si tu te plonges dans ses bras, notre Père céleste est celui qui relève. Notre Père céleste, c'est celui qui rebâtit, qui restaure. La grâce vécue dans ta maison avec chaque membre de ta famille découlera tout d'abord de ta relation personnelle que tu as avec Dieu. N'attends pas que les autres changent. C'est à toi de changer. C'est à toi de changer. Et tout va changer par la suite dans ta famille. Vis la grâce de Dieu maintenant. Et tu vas expérimenter cette promesse divine. Tu en Ésaïe 58, 11. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ésaïe 58, 11. Les tiens, ceux de ta famille, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, ces fondements renversés par notre société permissive, impie. Tu relèveras ces fondements. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, ta famille habitable, ta maison habitable. Que le Seigneur puisse nous amener à chacun à réfléchir sur ces principes qui sont contraires, je le sais, qu'ils sont contraires à ce que le monde nous enseigne. Le monde renverse les fondements. Nous sommes appelés à les relever. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à relever ces fondements qui ont été détruits par l'esprit de ce monde. Nos enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour les guider, pour les aider à faire de bons choix. Rencontres-tu des difficultés ? Ne baisse pas les bras. Persévère, persévère, persévère. Et qui sait si dimanche tu emmènes ton enfant à l'église, ce sera peut-être ce dimanche-là où il se convertira. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci pour, Seigneur, ta parole, parce qu'elle est la vérité, et nous savons que ta parole est toujours utile, non pas pour condamner, parce que tu ne condamnes pas, mais tu nous avertis, tu nous enseignes, afin que nous puissions aussi nous laisser instruire par toi, et que par ta grâce, nous puissions aussi, Seigneur, aussi voir, Seigneur, par ta grâce, notre famille, être une famille où il fait bon vivre, que nous puissions voir nos enfants aussi épanouis, progresser dans tes voies, épanouis en toi, et que nous puissions par nous-mêmes être heureux. Merci pour la grâce que tu accordes à chacun, que tu accordes à chacune. Bénis notre famille, bénis nos familles, bénis nos enfants. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.